Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Ce documentaire marocain, au sujet de la santé mentale, a été réalisé entre Paris et Rabat sur une quinzaine d'années.
La création sonore que vous vous apprêtez à écouter contient des témoignages sensibles qui peuvent choquer. Les personnes enregistrées ont explicitement donné leur accord pour que leur voix soit entendue. Bonne écoute.
Des bruits de soie, une création sonore d'un patient tranquille.
Alors, vraiment, c'est important, le contexte familial et la façon de traiter le malade en souffrance psychique. Et je passe la parole à Reda, qui va nous parler de la souffrance.
Je ne sais pas encore ce dont je vais vous parler. Excuse-moi, t'interromperai, tu vois. Allô, vous m'entendez? Ok, il y a 48 heures, je ne savais pas que j'allais être en face de vous et Hatoun m'a proposé de venir et je me suis dit que c'était l'occasion. C'est la première fois que je prends la parole en public à visage découvert pour parler de troubles mentaux et pour moi c'est un acte de résistance d'une certaine façon. Bien que je ne sois pas schizophrène, mais que je souffre de bipolarité ou de psychose maniaco-dépressive, je préfère cette appellation, mais c'est pas le sujet du jour. Cependant, j'ai accepté de venir aussi parce que je pense pas comprendre ce que c'est que la schizophrénie, mais j'ai vécu avec dans un entourage familial très proche. Donc voilà, je pensais pas que j'allais être en panique et stressé devant vous, mais c'est un peu le cas. Excusez-moi. Non, je suis bien comme ça, franchement, je suis bien, merci. Vous m'entendez bien, Yek? Ok. Alors, en quelques mots, parce que l'après-midi a déjà suffisamment duré, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, mais ça fait depuis 2006, 17 ans, que je surfe dans le monde de la psychiatrie, plutôt du côté patient. J'en ai vu une trentaine des psychiatres, parce que je suis un peu une tête dure, moi quand tu me dis oui, je dis non. Par principe, et j'ai quand même essayé de construire du sens et d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait.
Si tu veux, cette chose-là dont on va parler, j'en ai tellement souffert, et j'ai tellement eu le sentiment de réussir à m'en sortir, que je me disais, de façon peut-être un peu naïve aussi, que mon témoignage, entre guillemets, pouvait tout simplement en aider d'autres. La plupart des personnes que j'ai rencontrées qui souffraient de cette pathologie étaient extrêmement sensibles. Ils avaient des relations complexes au monde, aux autres. Et j'ai l'impression que c'est des gens intéressants et quelque part, ils pourraient participer peut-être à la construction de meilleures relations, qu'elles soient sociales, médicales, amicales, professionnelles, dans le couple, dans notre rapport aux choses, au monde, etc. Tu sais, quand quelqu'un qui est en souffrance s'exprime, il dit « je suis bipolaire ». Moi, la question qui m'a travaillé pendant des années, c'est qu'est-ce que je suis quand je ne suis pas bipolaire? Pour moi, c'est un état, en fait, c'est pas une identité. Et le grand risque, c'est de continuer de s'identifier et d'être identifié en permanence par la pathologie. Et de pas faire la différence entre les moments où on est complètement sain d'esprit et les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de travailler sur ce projet. Ce projet, je peux essayer d'en parler avec des termes plus précis, même si c'est encore un peu flou dans ma tête. Documentaire, je sais pas vraiment si c'est un documentaire, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de, disons, un ancien malade qui ne supporte plus les tabous autour de la souffrance psy, la maladie mentale, et qui voudrait lever le voile, témoigner et apporter un regard singulier sur cet état. Voilà. Et quand je dis cet état, ça suppose qu'il y en a d'autres des états.
Il y a une souffrance, une jubilation, une solitude et une terreur propre à ce type de folie. Dans les envolées, c'est fantastique. Les idées et les émotions fusent à la vitesse des étoiles filantes. On les suit, on les lâche. On en trouve des meilleurs qui brillent encore plus. La timidité s'en va. Les mots et les gestes exacts vous viennent à point nommé. Le pouvoir de captiver les autres est une certitude intérieure. On trouve de l'intérêt aux gens inintéressants. La sensualité est omniprésente. Comme est irrésistible le désir de séduire et d'être séduit. Une impression de facilité, d'intensité, de puissance, de bien-être, d'opulence et d'euphorie vous gagne jusqu'à la moelle.
Et puis soudain ça change. Les idées folles sont trop nombreuses et vont trop vite. La lucidité fait place à une confusion accablante, la mémoire disparaît. Sur le visage des amis, l'inquiétude remplace l'amusement et la fascination. Tout ce qui marchait tout seul va maintenant à contre-courant. On devient irritable, mauvais, craintif, insupportable. Totalement égaré dans les plus sombres cavernes de l'esprit. On n'était pas au courant de l'existence de ces cavernes et cela n'a pas de fin. La folie creusant elle-même sa propre demeure.
Et ça continue de plus belle, et bientôt.
Comme la manie vous fait au moins la grâce d'effacer partiellement les souvenirs, vos comportements stériles, frénétiques et incongrus n'existent plus que dans la mémoire des autres.
Et ensuite.
Et ensuite. Après les médicaments, le psychiatre, le désespoir, la dépression, l'overdose, tout le fatras de sentiments à trier. Qui est trop poli pour dire quoi? Qui sait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?
Et plus obsédant, quand cela va-t-il recommencer?
Quand cela va-t-il recommencer? Ensuite viennent les désolants pensées bêtes, médicaments à prendre, à refuser, à oublier, à prendre, toujours à prendre. Lesquels de mes sentiments sont vrais? Quel moi? Et moi, le moi brut, impulsif, chaotique, débordant d'énergie, complètement marteau? Ou le moi timide, renfermé, désespéré, suicidaire, défaitiste et exténué? Sans doute un peu des deux et en espérant ni l'un ni l'autre.
Merci au docteur Kay Redfield Jamison, psychiatre américaine atteinte de troubles bipolaires, à qui je viens d'emprunter les mots extraits de son excellent ouvrage De l'exaltation à la dépression. Ces mots qui comptent parmi les plus justes pour tenter de dire la souffrance des troubles de l'humeur.
La journée mondiale de la santé mentale, on vous en parle avec l'association CELA et ses membres. Docteur Hatoun Meriem Hebraoui Kadri, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être parmi nous.
Merci de nous avoir invités et de nous permettre de parler au public de nos problèmes, le problème des personnes en souffrance psychique et des familles qui s'occupent de, et des aidants.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'accepter notre invitation et vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Et nous avons aussi un patient tranquille. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de me donner la parole aujourd'hui.
Merci d'accepter l'invitation.
Un patient tranquille, il faut préciser que ce n'est pas le patient. Attention,
non.
Donc, c'est l'impatience. Et la tranquillité.
C'est ça, c'est un jeu de mots. Alors, impatience, tranquillité, impatience tranquille avec vous aujourd'hui.
On le respecte. Docteur Kadri.
Je voudrais vous dire que maintenant, en France par exemple, il y a des études de pairs. C'est-à-dire, comme la réhabilitation a été mise en place et qu'il y a eu des malades qui étaient très bien stabilisés, ils font des études et ils reviennent
par les pères.
Comme pères.
Voilà.
Comme
pères. P-A-I-R, voilà,
oui,
on le précise.
Pour aider les malades qui sont en crise.
Parce
ou,
qu'ils sont très bien,
oui, et ils
placés,
bien
placés pour les comprendre.
Voilà. Pour les comprendre et pour leur expliquer qu'on peut
on
revenir.
On peut s'en sortir.
Je suis l'exemple. Voilà, ouais, je suis
voilà,
l'exemple.
Voilà, exactement.
On sent un peu la souffrance.
Ben, ouais, oui, c'est ça. C'est
pas
ça,
un peu, beaucoup.
J'imagine.
Très bien placé.
Il y a donc un patient tranquille, voilà, donc c'est
il
comme
tranquille.
Ça.
Voilà.
Si vous permettez, je vais raconter un petit peu mon histoire personnelle. Moi, j'ai eu la chance que ça m'arrive très jeune. J'ai eu ma première crise à l'âge de 16 ans. La pathologie qu'on m'a diagnostiquée, c'est une bipolarité. Pour la faire très sommairement, c'est des moments d'exaltation suivis de moments de dépression.
On change d'humeur.
Oui, on change d'humeur, mais...
Ça dure dans le temps.
Ça peut durer dans le temps, ça peut durer 6 mois d'exaltation, 1 an et demi de dépression, ce genre de choses-là. Alors, ce que je voulais d'abord faire avant de continuer mon récit, c'est de répondre un petit peu à Hichem, et je suis désolé de te répondre comme ça, quand tu dis qu'on est tous fous. Pour moi, c'est un peu étrange de dire ça, dans le sens où quand on dit ça, on dit aussi que personne ne l'est vraiment, en fait.
C'est ce que sais que c'est comme ça que je vois la chose. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce qui est intéressant, c'est que chez toutes les personnes dites normales, il y a des tendances. On va dire une petite tendance dépressive, une tendance schizophrénique,
c'est
une tendance anxieuse, etc. Pour l'immense majorité des gens, on arrive à s'accommoder de ces espèces de tendances. Et pour certains, il y a un seuil critique. Et je veux rebondir sur ce que disait Hatoun aussi. en disant que les personnes n'étaient pas très intéressées au début de rejoindre l'association, je pense que c'est pour une raison simple, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc je vous invite vraiment, chers auditeurs qui nous écoutez, à vous renseigner sur cette maladie mentale qui prend énormément de temps. Ça fait 17 ans que je m'intéresse à ça et je ne sais toujours pas quoi penser précisément de ça. Donc je ne pense pas que ce soit en 20 minutes d'une émission radiophonique qu'on aura des réponses. Ceci dit, si je peux me permettre de donner quelques petits indices, je dirais que la folie, c'est d'abord un refus du réel. C'est-à-dire qu'il y arrive un moment où on n'arrive plus à composer avec ce réel-là. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle les délires. On a besoin de se créer une autre réalité parce que la réalité que nous vivons et que nous percevons nous est devenue à un certain moment insupportable. Et je dirais que les plus vulnérables d'entre nous ont tendance à passer de l'autre côté de la barrière. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, alors j'espère que les psychiatres seront d'accord avec moi, pour moi, la folie ou la maladie mentale, ce sont aussi des moments. Pour parler de mon cas, moi, entre novembre 2015 et peut-être mars 2016, je n'étais pas disponible.
Tu étais ailleurs.
J'étais ailleurs, mon cerveau était ailleurs, j'avais une seule idée en tête, c'est comment je fais pour mettre fin à mes jours. Et je passais mes journées à me balader dans des cimetières, à me coucher près des tombes. Mais aujourd'hui, je vous parle, j'ai une activité professionnelle tout à fait normale, je suis marié par ailleurs... j'ai envie de vivre,
voilà
etc.
Voilà ce qui nous rassure et c'est justement le but de cette
émission. Pour cela, il faut prendre un temps en fait, parce qu'à chaque fois qu'on fait une crise, notre monde intérieur s'écroule. Tout ce qu'on avait envie de faire, tout ce qu'on pensait savoir du monde et ce qu'on pensait savoir sur soi s'écroule, s'émiette devant nous comme un château de cartes qui tombe. Et ensuite, il faut rebâtir. Et quand on rebâtit, on recompose d'une certaine façon une identité, une conscience. Et c'est possible, c'est faisable. Alors évidemment, les médicaments peuvent aider à tout cela. Mais c'est surtout son rapport au monde qu'il va falloir réaménager.
La crise est une rafale, un ouragan, un séisme imprévisible. Le choc est d'une violence innommable qui détruit tout sur son passage. L'avalanche mentale emporte avec elle les débris de ce qui était autrefois une ville ordonnée et logiquement structurée. Mais on n'a pas idée de bâtir une cité sur un volcan endormi. En quelques fractions de secondes, le paysage n'est plus que désolation. Seul, debout, face aux cendres de ses repères, il n'est plus qu'un îlot au large des côtes de sa cité d'antan. Lentement, la tempête laisse place à un interminable silence. Les heures se transforment en années. Et cette question récurrente, mais que s'est-il passé ? Très lentement, comme surgissant de nulle part, la douce brume, cet écran de brouillard, danse, se donnant la main aux souvenirs. Enveloppé sous cette chape de plomb, le soleil qui a basculé sous la ligne d'horizon n'en sortira plus.
Ce moment est fort parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai sauté pieds joints dans un univers, je m'imaginais même pas que ça existait en fait. Autant la mort et tout, bon... Depuis que t'es gamin, tu vis avec l'idée qu'un jour, quelqu'un va mourir. Bon, ok, j'ai un cousin qui... Là, t'arrives dans un territoire inconnu, inexploré, de ta conscience en tout cas. Et tellement on en parle peu, tu sais pas ce qui est en train de t'arriver. Alors racontons l'histoire telle que c'est produite. Bon, 2005, je fumais quand même pas mal de shit. Hein. Je sais pas, 3-4 pétards par jour, un truc comme ça. Et un jour, c'est l'été, maman veut qu'on passe des vacances avec mes frangins. Et moi, je me dis, tiens, vacances, frangins, maman, bon, bah, fumons pas. Les deux, trois premiers jours, un peu dur quand même. Quatrième jour, putain, ça, il faut que j'aille acheter de la drogue. Juste un petit joint. Et en fait, je tombe sur un gars qui avait envie de fumer aussi. Et moi, j'ai toujours été un peu, pas parano, mais vigilant. Faut pas qu'on se fasse choper, faut faire attention, ça reste dangereux. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que le grand taxi, qu'est-ce qu'il fait pas ? Au moment où la transaction se passe, il nous a arrêtés devant le commissariat. Il y a de quoi flipper, tu vois, genre... Je suis pas bien, tu vois, j'angoisse, quoi. On monte dans la bagnole, finalement, il nous arrête pas à la case commissariat. On reprend la route tranquille. Sur la route, je commence à me détendre. Je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, faisons-nous un petit pétard. Et là, je fume ce pétard. Et ce pétard, bah en fait va mal tourner. Je sais pas combien de temps c'est lui. Est-ce que lui il a juste ouvert une porte? Mais en tout cas à partir de là, je commence à être bizarre. J'arrive à l'hôtel où il y avait ma mère et j'ai l'impression que tout le monde me regarde et elle en particulier et qu'elle m'a cramé. Donc je fais une espèce de crise de parano mais gentil, tu vois. Genre on m'a juste cramé. Pendant la soirée, je fais une confession à ma mère. De genre, oui, en fait, je fume de la drogue depuis super longtemps, je sais que tu l'as vu, machin, etc. Très vite après, je réaliserai qu'elle a rien vu du tout, que tout ça, c'est dans ma tête. Je crois que c'est le lendemain qu'on rentre à Rabat. Et là, commence à se passer des trucs très, très, très étranges. Je commence à sentir une espèce de boule de feu, au départ dans mes orteils, et qui remonte tout doucement sur tout le trajet le long de mon corps. Elle arrive à ma gorge quand on arrive à Rabat. Et je sens qu'un truc va exploser. La seule intuition que j'ai, c'est qu'il ne faut pas que ça se passe devant ma mère. Souci de préserver la maman à fond la caisse. Ça, c'est un truc qui est très présent chez moi depuis visiblement toujours, tu vois. En tout cas, 2006. Je sens que ça va péter, je sens que ça va péter. Quand la boule de feu... Mais une boule, mais c'est un truc genre vraiment violent, quoi. J'ai jamais eu cette sensation de toute ma vie. Une bizarrerie, quoi. Grosse bizarrerie.
Aucun son ne sort de ma bouche tellement ce truc est là, tu vois. Je négocie tant bien que mal, enfin je fais comprendre plutôt à ma mère qu'en fait je me casse pour passer la nuit avec ma nana de l'époque. J'arrive chez elle, je lui fais comprendre, parce que je suis encore muet, que ça va péter, que ça va vraiment péter. Et en fait on va sur la plage et je commence à avoir une espèce de crise de larmes trop bizarre. Genre je me mets à vraiment chialer comme un ouf. Et là, première manifestation un peu étrange, il y a masse chats et masse chiens, genre énormément de chiens, énormément de chats qui s'approchent. Je vois beaucoup de lumière, en fait, qui s'échappe de moi, on va dire, tu vois, qui part comme ça, par ce truc qui était là. Et je vois les chiens. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il y a une espèce de volcan d'énergie qui... truc un peu... On commence à être dans un truc bizarre, tu vois, gentiment. Et on dormait dans une tente, dans le jardin. Pour moi, ça démarre exactement là. Ça, c'était un peu les prémices. On passe la nuit, et au petit matin... Cette fois-ci, c'est pas les chiens, c'est pas les chats, c'est les oiseaux. Et... Est-ce qu'on c'est comptable des oiseaux, mais pour moi, il y a 150 oiseaux au-dessus de la tente. Tu vois, genre... Des oiseaux de fou furieux, quoi, tu vois, genre. Et je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là, mais il y a une évidence qui se pose et qui s'impose d'en fait... Parce que j'essaye de secouer ma femme de... Enfin, ma femme... Ma nana de l'époque... qui se réveille pas, tu vois, je la secoue, genre faut qu'elle se réveille, elle se réveille pas. C'est hyper bizarre pour moi, parce que théoriquement, machin. Et là, quelque chose de super bizarre s'impose comme idée. C'est en fait, c'est... Je suis en train de vivre le réveil d'un prophète. Tu vois, ok. C'est hyper bizarre pour moi. Je sors de la tente, je vois les oiseaux. Je me dis, ok. Un jeune prophète, je sais pas moi, qu'est-ce qui est quoi, comment on fait, tu vois. Et je me dis, bon bah, tu sais quoi, après tout, c'est les chiens, les chats, la veille, là, les oiseaux, bah, suivons les oiseaux. Et je commence à suivre les oiseaux. J'ai un calbute, j'ai les cheveux super longs, comme aujourd'hui. Et je me mets à marcher à travers champs. Parce qu'on est vers David, et en fait, il y a plein de terrains vagues à côté, enfin, c'est, à un moment, c'est la brousse, quoi. Je bah, suis les oiseaux. Et à un moment, je me mets à courir. Je sais pas pourquoi je me mets à courir, mais je me mets à courir. À courir, les oiseaux. Je me mets à courir, les oiseaux. Un truc de fou furieux où je sens que je cours, mais à une vitesse mais complètement folle. Et les oiseaux qui tracent dans une direction, tu vois, presque. Comme si, genre, c'est par là, mec. Et je trace. Et à un moment, là, franchement, si je mens, mec, voilà comment je le vis. Je vois le sol au-dessus de moi. Et en fait, c'est pas la distance normale. Je suis plus haut que d'habitude. Et je me vois à 3-4 mètres du sol. Et je me sens en train de voler. Genre vraiment, c'est en train de se passer. Genre j'ai couru tellement vite que... Avec les oiseaux, quoi. Et à un moment, je me dis, mec, ça va. Là, bon, prophète ou pas prophète, bizarre, faut rentrer. Au moment où j'ai cette pensée, les oiseaux, ils font... Dans l'autre sens. Je partais comme ça avec des oiseaux. Les oiseaux dans l'autre sens. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne. Et dans la direction des oiseaux, un mec avec une barbe blanche... posé en plein milieu de nulle part, qui me sourit. Il était genre, disons, à l'horizon. Je le rattrape en genre un instant, tu vois. Genre... Et quand je suis genre à quelques mètres de lui, il disparaît. Là, ça démarre, tu vois. Là, ça a commencé. Mais est-ce que je suis fou?
Genre vraiment, je me rappelle de cette phrase qui a résonné pendant tout ce truc. Est-ce que je suis en train de... vraiment de perdre la raison, de perdre la boule?
رجال مطافئ منين غادي يوصلوا هنا كلك سيدي هو غادي يوصلوا جوا القطره ديال سلا ويوقفوا الامبولانس الاخرى جيتهم ولا تشوفوا ولا دبروا راسكم كيفاش غادي نديروا عاوتاني المهم بقى وصلوا هنا وصلوا هنا وصلنا ادخل ودخل في واحد الحاله مسكين يعني هذا خلاوه بوحديتو في واحد البيت كيشدوا عليه حتى تهدن دخلنا لواحد المرحله اخرى ما كناش كنتظروها ما كناش اهرب من تما مسكين وعاود جا عندنا مشكله باش عاوتاني ربطيناها عاوتاني عرفتي منين دخل عليك داك الحاله وهكاك الخوف يعني الرهبه كتعيشها مع هذا رجعنا جلس تما مسكين شافوه بداو كيعطيو له الدواء ديالو بدو كيدي هذيك المرحلة عاود صعيبة 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 وخا جلس شهر وخرج اش غدير بيه واش غيدير بيك
quand t'es là-bas personne ne sait. Tu vois, donc t'as ce truc, donc non seulement t'es malade, tu vois, genre t'es pas bien, il y a un truc où t'es en souffrance. Et en plus, c'est pas qu'on n'a pas le droit de venir te voir. C'est qu'on doit pas savoir que t'es là-bas. Alors que dès que quelqu'un a un problème de santé, on vient tous à l'hosto. Parce que la douleur d'un proche nous rapproche. Et là, la douleur d'un proche...
J'ai pas envie de parler de mes hospitalisations psychiatriques, que ce soit au Maroc ou en France. J'y ai été 6 fois en 8 ans. La première fois le 30 novembre 2008. Et la dernière fois, on touche du bois, c'était à l'hiver 2016. 2 fois j'y ai été suite à des tentatives de suicide. J'ai pas envie de développer ça maintenant, ni parler de l'errance médicamenteuse, du déni. Éventuellement, si tu veux, j'ai une lettre. C'est une lettre que j'avais écrite en 2015 pendant une hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, où il y avait vraiment rien à foutre, quoi. On était enfermés dans des pièces, et puis... Bref, à l'attention du directeur de l'hôpital. On dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Au regard des activités proposées dans l'unité psychiatrique du pavillon Magnan, secteur 15 de l'hôpital Sainte-Anne, il semble que vous souhaitiez que nous les nourrissions, ces vices. Mais pas de soucis, sécurité oblige. Une bonne dose de Valium et de neuroleptiques et une télévision par laquelle la violence du monde extérieur, qu'on est venu fuir, s'infiltre dans l'enceinte de l'hôpital et nous anesthésie le cerveau. Et le tour est joué. Vous pensez soulager nos troubles par la camisole chimique et la lobotomie télévisuelle. Nous serions passés d'une capacité de plus de 125 lits à 25 aujourd'hui en quelques années selon les propos d'une infirmière du service. Aujourd'hui, disposer d'une chambre simple plutôt qu'une chambre double relève du luxe, alors qu'il s'agit du minimum syndical lorsque nous venons nous reposer dans vos institutions. Ah oui, ça je l'avais écrit parce que je m'étais retrouvé avec le dealer de l'HP, et donc tout le monde venait dans la chambre récupérer de la coke, du shit, de l'alcool, enfin c'était le bordel quoi. Aussi, il n'y a qu'une infirmière et une aide-soignante dans l'unité ouverte, et ce pour une quinzaine de patients en détresse mentale, faut-il le rappeler. Pour ce qui est de l'unité fermée, pas bien mieux, il ne reste que 2 infirmières et une aide-soignante pour une dizaine de patients lourds. La réduction de l'effectif de professionnels de la santé dans votre secteur a pour conséquence une diminution drastique, pour ne pas dire une réduction à néant, de leur disponibilité d'écoute. Elle-même facteur déterminant de notre guérison. Certaines sont proches du burn-out et ne sauraient tarder à passer de l'autre côté de la porte. Je ne crois plus en vos institutions et ce courrier est une bouteille jetée à la mer. En revanche, je crois au pouvoir de la société civile, qui, elle, vit les choses de l'intérieur. Je crois en l'édification d'un système de soins humains suite à la mobilisation de la dite société civile. Pour terminer, je ne sais pas ce qui vous attend dans l'au-delà, car je ne sais pas s'il y en a un, mais ici-bas, j'espère que votre conscience est tranquille, que vous dormez sur vos 2 oreilles, pendant que mes insomnies me mutilent, que mon lit se transforme en ronce,
et mon oreiller en lame de rasoir. L'état du service psychiatrique du pavillon Magnan, secteur 15 de l'hôpital Sainte-Anne, n'est que le reflet de votre politique de santé publique qui est un lamentable échec, car vous n'avez pas fait de votre mieux pour humaniser le traitement de vos patients, de donner les moyens à l'équipe médicale de nous traiter avec attention, compassion et dignité. Vous m'avez rangé dans le tiroir du bipolaire, je vous isole, je vous enferme dans la cellule du psychiatre banquier, véreux, mercantile et cupide. Et je ne sais pas laquelle de nos deux psychoses est curable.
Tertian, Nosinan, Solian, Deroxate, Xanax, Olanzapine, Anafranil, Abilify, Seroquel, Risperdal, Sertraline, Lithium, Tegretol, Depakine, Nordaz, Insomnie, Agitation, Assèchement de la bouche, Étourdissement, Vision trouble, Mouvement involontaire, Baisse du désir, Anxiété, Somnolence, Perte d'énergie, Convulsion, Idées noires.
En tant qu'ancien maniaco-dépressif du monde de la psychiatrie, j'ai décidé aujourd'hui de me raconter à travers ce micro pour toi qui m'entends susurrer le verbe. Le verbe créateur, celui dont la projection crée immédiatement l'onde sonore qui se fraye un chemin dans ton écoute. Tel est le corollaire de ma pensée créatrice, qui met en mots des sons, des images, des formes et des métaphores qui traîne au fond d'un cerveau qu'on a qualifié de malade. De malade. Neuroleptique, anxiolytique, somnifère et tranquillisant, il a absorbé et comme un chef cuisinier t'a transformé ses ingrédients en dessert pour l'esprit.
Et donc, il y a ces psychiatres banquiers, comme je les appelle, qui te feraient une conférence pour vendre les vertus de tel médicament, mais en fait, c'est surtout pour quelques dollars de plus. Et toi, tu te retrouves esclave de cette merde, et à partir du moment où tu décides, par exemple, de dire « Je pense qu'ils se sont trompés, je pense que je peux vivre sans ça », voilà, c'est panique à bord. Panique à bord parce qu'on a mis je sais pas combien d'années à trouver le bon traitement, que j'accepte de le prendre, que je le refuse, que j'accepte, que je refuse. Par exemple, actuellement, je suis dans un stade de refus. De refus total. Mais j'en parle pas à celle que ça peut faire paniquer, ma mère, en l'occurrence. Elle le sait pas. Pour elle, médicament égale stabilité. Je ne veux pas d'instabilité, donc garde ton médoc.
Hier, on m'a ordonnancé des antidépresseurs. En me disant, t'es pas encore au fond, mais j'ai pas envie, ça c'est ma psy qui parle, j'ai pas envie d'attendre que tu sois au fond pour t'en donner. Ça a été un petit bras de fer pendant une demi-heure et finalement, je lui disais que c'est les arguments les plus puissants qui l'emporteront. Et elle avait les arguments les plus puissants. Moi, finalement, dans mon camp, j'avais juste cette espèce de colère, tristesse, rage qu'elle ait raison, en fait. Je pensais que ça se reproduirait plus, peut-être de façon un peu arrogante. Ou juste avec l'idée que tu espères, en fait, avec ouais, de l'espoir. Que ça se reproduise plus. Mais en fait, un moment ou un autre, ça se reproduit. Je suis triste que ça se passe. Je suis en colère aussi de me retrouver dans ces états. Je me disais qu'il n'y avait rien au monde qui mériterait que je me retrouve
Bon, à nouveau en train de déprimer, tu vois, il fait beau, on est au mois de juin, genre. Et pourtant, crispation dans le visage, t'as le... la gorge qui est nouée, t'as le cœur serré un peu aussi. Prendre le temps de m'occuper de, d'encaisser le choc que j'ai vécu il y a 3 semaines maintenant. Deux, trois semaines. Un choc hyper violent.
Personne.
Non, il n'y a pas personne. Je m'en bats les couilles, il n'y a pas personne.
Direct,
oui, c'est ce que. Oui, j'ai
parce
compris.
Que, quand je leur ai dit est-ce que vous pouvez appeler Tillal, ils ont dit non.
Je dois appeler Samira.
C'est ce que je t'ai dit.
Il faut appeler les pompiers, je m'en bats les couilles, qu'ils le maîtrisent, il faut appeler les flics, il faut appeler quelque chose.
La dernière fois que les pompiers ont
été. Oui, il faut que Samira me conseille. Puis Samira répond, s'il te plaît. S'il te plaît, putain. Il y a des cliniques psychiatriques ici, des urgences psychiatriques ici.
Razi, c'est pas des urgences.
On a le temps de voir un médecin à Razi. S'il te plaît, réponds, putain. Ça,
et si
c'est
médecin, au pire, on vous appelle, on vous pose la question.
Appel de ton tel, on va avoir besoin de notre de tel maintenant.
Et envoie à Samira SOS.
Non. Mec, la dernière fois qu'on a fait les pompiers, tu sais comment ça s'est fini, quoi. Je sais pas si je dois faire ça, en fait.
Mais en fait, tu sais pas comment eux vont réagir.
Je sais pas comment eux vont réagir, exactement.
Tout se passe bien, se casser et envenimer une situation.
Allô ?
Tu veux l'appeler ? Tu veux parler à Reda ?
J'appelle sur le médecin, chérie.
Oui.
Je vais dire à Martine, écoute ce que pense Alice et que tu devrais prendre ta bagnole, prendre ton fils et te barrer, tu vois. Donc, je sais pas quoi te dire, mec.
Passe-le-moi. Bonjour, est-ce que vous avez des urgences psychiatriques, s'il vous plaît? Ok. Ok, très bien. J'ai une question très importante, si vous pouvez m'y répondre. J'ai un frère qui est schizophrène et qui est actuellement sous substance de LSD, dans un grand délire. Le problème, c'est que l'histoire ne se passe pas au Maroc, c'est au Canada. Est-ce qu'on peut prendre des antipsychotiques sous LSD? Je vous passe ma femme.
Allô?
Allô?
Ok. Tu pourrais même remettre cet enregistrement qu'on a ensemble avec... comme une forme de marée hostile, avec des vents d'un côté et d'un autre, tu vois, genre, après avoir affronté une grande tempête, et tu te dis, putain, on a encore des provisions, on peut encore avancer.
Et on va avancer. Est-ce que j'ai un peu de ta lucidité?
Oui, vas-y, tu m'as ma lucidité bien joué, tu m'as chopé.
Est-ce que la lucidité est un petit peu là? Est-ce que tu penses que ça te ferait du bien qu'on appelle les pompiers?
Mais surtout pas.
Non?
Rentre pas là-dedans,
Je te pose la question. Non. Je parle à ta lucidité.
Non, tu te rends pas compte. Reste ça entreprend comme action, comme personnes qui vont sortir de leurs activités tous les jours pour venir, non?
D'accord, et après ils sont là pour ça.
Tu me connais avec mes points de sauvegarde, truc, et un jour tu écriras un podcast en disant mon frère le schizophrène, et c'est lui qui m'a raconté des mondes, et dans ces mondes, voilà, quand on naviguait ensemble et
On est ensemble et on n'est pas en train de parler de la fin. Tranquille, mec, tu es dans un trip.
Non, mais c'est pas une question de fin, c'est juste que c'est, ça vient pas n'importe où, avec mon fils qui arrive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de précieux qui est sorti. C'est juste que cette rencontre, bordel, il y a nous deux, en dehors de toute frontière, ou deux.
Oui, je comprends. Tranquille, tranquille. Je suis avec toi, frérot, et on peut rester des heures.
Ça a remonté la côte, tu dois avoir trop de voltige, trop de. Moi, je suis trop voltigé, tu vois, ça peut me faire ça.
Ouais, ouais, mais Camille, tu es un être magnifique, tu es un être vraiment cool. Ce que tu vas vivre là maintenant, tu vas le vivre en détente. Détente. Et on va se voir dans pas longtemps, mec.
Ouais.
Détente.
Ça va être quelque chose de dingue, genre. Avec le fait que tu puisses prononcer, on va se voir. C'est une chance, bordel.
Oui, c'est magnifique. C'est magnifique, mec. C'est magnifique. Y a pas de problème, y a pas de problème. On a accosté. On a accosté, comme tu dis. On va faire une petite pause sur le rivage. Je suis avec toi, c'est cool, je suis avec toi. Ok.
Putain!
Je dis qu'il est toxique pour toi.
Oui, mais c'est et... je peux pas l'abandonner.
Ah non, mais
mon
maman,
fils. Arrête de dire des conneries.
Maman, je pas. Et qui t'a dit abandonner?
Hé, hey, tu sais, mets-toi à ma place. Dans l'état dans lequel il était quand il m'a parlé, tu vois sa détresse, tu vois ses yeux perdus comme ça. Non, non, ça y est, ok, ne fais pas attention à ce que je dis, maman. Radin, c'est pas le Radin. Je vois le gosse, c'est ça. La chaline, Hachi. Alèche. Il est en souffrance. C'est ça que je supporte pas. Oui, je sais, tu veux pas que je pleure. Oui, je pleure, oui, je sais. D'accord. Allez, allez, allez. Oui, oui, ça y est, je vais plus pleurer.
Alors, moi, c'est Ali. Je suis le petit frère de Camille et Reda. Moi, j'ai grandi avec, du moins, c'était les mots que je mettais au départ, un frère bipolaire et un frère schizophrène. Ce dont je me rappelle vaguement, c'est que d'une présence quand même quotidienne, tout d'un coup, mes grands frères sont plus là. Mes grands frères, c'est quand même, quand je suis tout petit, des exemples et des modèles, et tout d'un coup, une disparition... un peu soudaine que je comprends pas parce que je pense que je voyais pas du tout les phases de montée pour le coup. En fait, il y a quelque chose qui se perturbe. Moi, j'en comprends ni les causes ni les conséquences. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a de l'agitation, il y a du mouvement. Je devais avoir 12 ans à tout casser. C'est aussi quelque chose dont j'ai été mis à l'écart par protection de notre mère. C'est arrivé d'abord avec des absences de mes frères qui tout d'un coup sont hospitalisés. Et avec des retours d'hospitalisation où moi, on me mettait à l'écart et j'étais pas là, souvent. J'allais chez mes amis parce que maman voulait pas que je vous croise dans des états où je comprendrais pas comment vous êtes, ce qui vous arrive. Je me rappelle même d'un jour où Camille, notre plus grand frère, était hospitalisé à Casa. Et que voilà, c'était un soir de semaine et à un moment, il est 22h à la maison et ça sonne. Et je descends pour ouvrir et c'est Camille. Là, j'étais vraiment paniqué, je savais pas quoi faire et, parce qu'il n'était pas censé être là. Et d'un coup, il y a comme ce qu'on essaie de me cacher qui surgissait un petit peu. Mais c'était... Je pense que maman aussi était un peu flippée, déboussolée de ce qui était en train de se passer. Et juste, il a fini par... Enfin voilà, tout était assez normal. Il a passé la nuit à la maison et il est reparti le lendemain à l'hôpital. Mais bon, il s'était échappé, entre guillemets. Et tu vois, je me rappelle la première fois que maman a tenté de me dire que t'avais fait une tentative de suicide. Je pense que je l'ai jamais comprise. Et ça, c'était un truc hyper, hyper dur. Pardon, ça. parce que je comprenais pas pourquoi on pourrait vouloir se suicider, quoi. Genre, juste à l'époque, ouais, c'est un truc qui était assez bouleversant. Et en même temps, j'étais en mode, ah, ok, bon, bah, du coup, ça va, il a pas réussi.
Ça a pas marché.
Et je me rappelle que maman me disait. Je sais pas si c'est elle qui m'a incité à vous écrire, mais ce truc-là de vous écrire des lettres quand vous étiez pas là pour vous souhaiter de vous rétablir et de vous demander d'arrêter de consommer de la drogue, c'était beaucoup ça. Et je crois que j'étais du coup beaucoup pris dans le prisme de maman qui, pour le coup, elle, en tout cas telle qu'elle a pu me le présenter ou telle que je l'ai compris à l'époque, c'était vraiment associé à... ils ont déclenché ça du fait de, on va dire, mauvais comportement et d'abus de drogue. Maman, elle m'a jamais dit « Ouais, ton frère, il délire, il se prend pour Jésus. C'est ton frère, il fume des joints et il va pas bien, quoi. » Et je pense que ça a beaucoup structuré ma première interprétation. Je vais pas dire compréhension, parce que je pense que je comprenais rien. Et maintenant, je sais que je comprenais rien. Et un excès de ça qui avait déclenché quelque chose, comme si c'était la cause première, quoi. Maintenant, je le dirais plus comme ça, mais en tout cas, c'est le récit que s'en fait maman. Genre, moi, j'ai grandi avec la peur du dicton « Jamais 203 », tu vois. J'ai deux frères qui ont vacillé. Est-ce que moi, ça va m'arriver? Et là, j'avais eu des discussions avec toi et avec Camille, beaucoup. Et où, en fait, il m'a un peu plus raconté sa vie, son adolescence, son enfance. Où je me suis dit, mais mec, en fait, la drogue, elle a rien à voir là-dedans. Où vraiment je l'ai mise ailleurs et j'étais en mode bah oui, t'avais besoin d'essayer de calmer ce qui se passait dans ta tête, tu t'es défoncé comme pas possible pour essayer de trouver une solution, à essayer de t'automédiquer d'une façon ou d'une autre, mais en fait non, t'es en galère psychique depuis bien plus longtemps et le moment où t'as eu l'âge de fumer des joints, bah en fait tu l'as fait comme pas possible parce que ça a rempli quelque chose. Camille, c'est beaucoup plus clair qu'il y a un truc de maladie de la pensée, tu le vois quotidiennement à l'œuvre, ses associations d'idées, ses fixettes, il est toujours en suractivité cérébrale, ça se voit, ça se sent, et ça doit être autrement plus dur à vivre que ta pensée ne s'arrête jamais, quoi. J'ai fini par comprendre qu'en fait l'un des trucs les plus visibles et les plus constants dans la schizophrénie, au-delà des pics de psychose et de dépression qui peuvent exister dedans, c'est vraiment beaucoup beaucoup ça, quoi. En gros, la place de la pensée dans sa tête. Parce que c'est vraiment ça. On sera en fait plus fin et plus juste et plus complexe à pas chercher de bouc émissaire. Parce qu'en fait, t'as besoin d'un bouc émissaire. Quand t'es petit, tu comprends pas ce qui se passe, c'est la faute à qui? Bah, c'est la faute à la drogue. Bah non, malheureusement, c'est trop simple. Et ça a fait par contre que, genre, par rapport à tous mes potes qui consomment de la drogue, je suis le plus renseigné sur tous les effets de ces drogues-là. Que j'ai jamais rien consommé sans faire des heures et des heures de recherche dessus. Par contre, je pense que j'ai jamais vu Camille déprimée comme toi tu l'as été, comme je t'ai vu vraiment avec un visage triste, éteint, avec des montées de larmes qui viennent de nulle part et de te sentir vraiment, vraiment profondément triste, quoi. La bipolarité, c'est y a de l'intensité partout et il y a des moments où l'intensité déborde. Je sais pas si c'est bien dit, si ça te...
Moi, ce qui m'intéresse, ça relate. C'est ce que tu
oui, mais bon, si tu me dis, t'es à côté de la plaque.
c'est franchement, on pouvait pas faire plus succinct, quoi. C'est bien sûr.
Ouais. Bon, après, évidemment, au moment où elle déborde à tel point que ça entraîne une psychose, ça, je pense que je comprendrai jamais vraiment ce qu'il en est. La première fois avec toi où j'ai l'impression d'avoir passé du temps au moment où tu étais dans un état dépressif, et que je me suis dit, ah ouais, t'es vraiment déprimé. Et c'était un moment où tu habitais à Paris, et maman qui me dit, va passer un peu de temps avec ton frère, il est pas très bien. Et moi j'étais en mode, bon, bah mon frère va pas très bien, je vais venir à Paris et je vais le sortir, quoi. Pas du tout. J'ai compris qu'on sortait pas quand on n'avait pas l'énergie de vivre. Et non, t'étais vraiment en mode, je suis dans mon lit toute la journée, j'ai absolument aucune énergie dans la voix, et ne serait-ce que de sortir manger en bas de la maison, c'était un challenge. Et moi, j'étais en mode, bon, je suis censé être là pour essayer de le remotiver, maman est fatiguée, et du coup, bah, je vais passer 10 jours avec un dépressif, quoi. J'ai quelques potes qui ont eu des galères et des troubles psy, et d'abord j'ai fini par le comprendre récemment, peut-être il y a quelques années, que déjà vous le viviez comme des garçons. Et que en fait une meuf qui déprime ou une meuf qui est en manie ou quoi, ça a pas du tout les mêmes formes d'expression. Notamment une pote qui était dépressive et qui avait des pensées suicidaires hyper fortes, et que j'ai accompagnée à l'hosto à un moment où elle me l'a demandé. J'étais en mode, putain, tu le vis vraiment pas comme mes frères. Et genre, j'étais en mode, t'es sûr, tu fais une dépression? Je pensais pas ça, une dépression. Ouais, j'ai pas dit comme ça, mais je me suis dit ça en moi-même. Et en fait, si, j'ai compris qu'elle était hyper réelle, et juste qu'elle était beaucoup plus difficile à cerner, et qu'elle était beaucoup plus dissimulée, et qu'elle était beaucoup plus pudique. Vous aviez pas de pudeur dans vos façons d'être fou. Et je trouve ça beau parce que ça permet de pas systématiser et de dire, bah en fait, ouais, une personnalité, elle disparaîtra pas. Hein. T'as une manière très spécifique d'être fou à chaque fois. Et en fait, là, c'est mon frère qui vit ça, et c'est pas la même chose que quand ce sera telle ou telle personne. Et c'est ce qui est un peu dur, parce qu'on cherche toujours à se dire, ah, mais là, il a pas réagi comme un tel, c'est que c'est pas ça. Mais en fait, non, c'est juste, malgré tout ce qu'on lira, ce qu'on vivra, ce sera toujours spécifique. Et que, mine de rien, moi, j'ai la conviction que, en fait, on peut vivre, je sais pas si vivre bien, c'est le bon mot, mais on peut vivre en étant fou. Et que, en fait, ça suppose que les conditions sociales le permettent. Et donc, moi, c'est un truc qui me travaille beaucoup, la façon dont vous deux, vous m'avez raconté vos expériences de psychiatrie. Bah, en fait, elles sont horribles, et j'ai vraiment pas l'impression qu'on arrive souvent à vraiment créer des lieux de soins dans ces espaces-là. Peut-être que des fois c'est nécessaire dans des cas d'extrême urgence, mais j'ai vraiment l'impression que les moments où vous vous êtes relevé, c'est pas parce que vous avez été shooté pendant un mois dans un hôpital, quoi. Et ça faisait que nous, on était moins impactés, certes, mais c'était un peu un truc de, on isole les fous, on les tabasse de médoc, et ça le fera. Et du coup, bah, comment on fait pour vivre vraiment avec vous et avec qui vous êtes dans votre personnalité et dans votre galère psy? Je sais jamais trop le mot à employer, c'est chiant. Il faudrait que je l'arrive à me mettre d'accord avec moi-même. Bref, ce que j'essaie de dire, oui, c'est peut-être une question un peu provocatrice, que de dire, est-ce qu'on peut être heureux d'être fou et être heureux de cette condition-là? En tout cas, est-ce que dans la folie, il n'y a pas des choses géniales aussi, quoi? Genre, ce que j'aime chez Camille et toi, c'est aussi que vous soyez fous, quoi. Et non, mais c'est vrai, j'aurais eu des grands frères différents, je les aurais aimés tout autant, et peut-être qu'on aurait vécu moins de choses difficiles si vous aviez été plus comme les autres. Mais en même temps, genre, c'est ce que vous êtes, et je vous aime pour ça, et je vous aime dans ça. Et en fait, un truc qui a vocation à genre le cacher au maximum, le réprimer au maximum, et que ce soit vraiment quelque chose d'à ce point aussi médiqué qu'il n'ait plus aucune forme d'expression. Ben voilà, si vous êtes tous les deux personnes très créatives, c'est pas pour rien, en fait. Vous avez mis l'idée à la seconde, vous faites des associations que personne d'autre ne fait, et je pense que sans une touche de folie, on n'est pas artiste non plus, quoi. Je suis convaincu de ça, et quand je vois mes potes qui sont les plus créatifs, ben c'est aussi ceux qui sont les plus zinzins, qui ont des intensités émotives plus importantes que les autres, et en fait, moi, je trouve ça possiblement beau d'être fou quand on vit dans un monde qui peut l'accueillir. Parce que quand tu dois être fou et t'adapter à un monde hyper violent, hyper dur et tout aussi fou, voire bien plus, bah, c'est très dur. On peut pas exiger de Camille d'être productif, et je pense que tant qu'on le fera, il s'en sortira jamais. faut qu'il trouve une autre place. Du coup, quelle est la place du fou dans la cité? En tout cas, c'est sûr qu'elle est dans la cité, elle n'est pas en dehors. L'hôpital nous dit que c'est en dehors, mais moi, je pense que c'est dedans. Et comment tu l'aménages pour que ce soit possible? Je pense qu'il y a des pistes, qu'il faut d'abord des vrais lieux de soins, qu'il faut des vrais liens entre les gens pour qu'on puisse réaliser que quelqu'un ne va pas bien et avoir des capacités à répondre collectivement de ça. C'est trivial, mais pouvoir être soigné dans des lieux qui sont propices à l'épanouissement, à l'activité, au lien, à la rencontre. Et tant qu'on considérera que la place d'un psychotique, c'est simplement à l'hôpital et nulle part ailleurs, bah, ça ne marchera pas. Mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas assumer cette charge collectivement de soins. On la délègue à des institutions, certes compétentes sur certains trucs, mais absolument incompétentes sur d'autres. Et en fait, tant qu'il n'y aura pas un équilibre plus grand, aucun malade mental se soignera simplement à l'hôpital, quoi. Il se soignera avec les autres et il est dépendant des autres. Et du coup, c'est ce lien, cette trame sociale et plus que sociale qu'il faut travailler pour distribuer les places de façon juste, quoi.
En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi, tu n'es pas, hein. Je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système.
Et d'une certaine façon, je considère que nous, malades mentaux, nous sommes des lanceurs d'alerte sur qu'est-ce qui ne va plus dans notre monde. Et c'est pour ça que je pense que notre parole doit être déliée, doit être écoutée, parce que je crois que vraiment, d'un point de vue civilisationnel, on va dans un mur. Et dans tout ça, nous sommes supposés nous adapter? Je pense pas. Je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir aussi à réorganiser les systèmes dans lesquels on...
J'ai envie de te poser une petite question.
Bien sûr, avec grand
justement
plaisir.
Pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai adoré ce que tu as dit.
Merci.
J'ai réussi à dépasser ça. J'ai une famille, je suis marié. Comment, justement, tu as réussi à dépasser tout ça?
Alors, sans rentrer dans les détails...
Sans rentrer dans les détails,
mais voilà. Je pense déjà qu'il y a des conditions matérielles d'existence qui m'ont permis d'en arriver là. Je m'explique. Certaines personnes qui seraient de milieu social un petit peu plus exploité et qui n'auraient pas forcément les moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient, je ne sais pas, d'accès en fait à certains soins intellectuels, peut-être
voilà,
aussi.
Il y a la mentalité, il y a l'entourage, il y a la famille.
Donc malheureusement, ma première réponse, elle vient aussi du fait que je suis dans un milieu qui a permis déjà l'accessibilité aux soins, d'accord. Sachant que, désolé, mais on ne va pas se mentir, dans ce pays, à part l'hôpital Razi, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller. Si je prends l'exemple de la Villa des Lilas à Casablanca, il me semble qu'on flirte avec les 3000 dirhams la journée, tu me diras si je me trompe à Toun. Et 3000 dirhams pour une journée d'hospitalisation, sachant qu'en général, pour une bonne hospitalisation, il faudrait entre deux semaines et un mois.
Ça, c'est sûr.
Je vous laisse faire le calcul. Donc déjà, malheureusement, dans ma réponse, il y a déjà cette chance que j'ai eue d'une certaine façon de naître dans un milieu social plus favorisé que d'autres. C'est la première des choses. Et la seconde chose que je voudrais dire, en fait, c'est une espèce de lucidité que je n'ai jamais perdue, avec une espèce d'auto-observation de ce que je vis, même quand je le vis. C'est-à-dire, là, OK, tu sens que tu es en train de partir dans une zone...
Du moment que tu dis que tu es conscient que tu n'es pas disponible et que tu es ailleurs, ça veut dire énormément, parce que d'autres n'ont pas justement cette faculté d'en être conscient.
C'est la résilience.
Et le troisième point sur lequel j'insisterai jamais assez, c'est l'amour. L'amour, que ce soit de nos familles, de nos proches, de nos amis, de nos femmes, c'est vraiment et ultimement la meilleure des thérapies qui puisse exister. Parce qu'on est dans cet espace de confiance, de partage, où on peut fondre en larmes devant la personne, on se sent écouté, compris, aimé, entouré. Et c'est ça qui nous donne des ailes, et c'est ça qui nous permet en fait de retrouver le goût de la vie et de se dire, je vais m'en sortir.
Justement, cet accompagnement de la famille est très très important.
Je te jure, regardez, ça m'a donné la chair de poule. Non mais c'est vrai, parce que... très important.
Oui,
docteur Khadri, à vous de jouer.
Alors, je voudrais parler des familles. Les familles qui sont des soignants pour des malades en souffrance psychique souffrent beaucoup parce que, un, le temps de comprendre, deux, les soins, il n'y a pas assez de médecins. L'hospitalisation, il n'y a pas assez de places. On n'a que l'hôpital Razi qui fait son mieux, mais il y a 220 lits pour 5 millions d'habitants. Tous les jours, on reçoit des coups de fil. S'il vous plaît, débrouillez-nous une place à l'hôpital. Il n'y a pas d'ambulance pour la psychiatrie. Vous savez, pour des gens à petits moyens, payer 1500 dirhams, arriver, leur dire, allez, il n'y a pas de place. Il y a des gens qui viennent à 5 heures du matin pour faire la queue. Et des fois, ils n'arrivent pas.
des bruits de soi.
Une création sonore signée Un patient tranquille. Réalisée entre 2009 et 2024.
Reda, je réécoute cet enregistrement et je réalise que j'étais incapable d'entendre mon frère qui voulait un simple retour au calme. La lucidité. C'est à elle que tu tentais de t'adresser alors que mon attention se perdait dans les méandres et incohérences du délire. Mon cerveau fragile, à la pensée défragmentée, voyageant dans un monde bâti de toutes pièces. Une tempête cacophonique décousue. Un vertige de non-sens. Je parlais un autre langage. Je parlais le langage de la schizophrénie. Ce soir-là, alors que mon esprit avait quitté le réel, c'était toi que j'avais comme boussole. C'était toi mon interlocuteur au téléphone de l'autre côté de l'océan, impuissant, à tenter de saisir le sens ou de créer un lien avec une psyché atomisée. C'est effrayant d'observer qu'en contexte de délire ou de psychose, le reste du monde et notre empathie n'existent quasiment plus. Comment te décrire cette maladie mentale que je préfère nommer aujourd'hui compagne de longue date ? En fait, ce que j'entreprends pour apprendre à vivre avec cette compagne, avec ce trouble schizophrénique, on s'entend, ça peut se résumer en trois points. D'abord, un travail à faire sur la pensée. Deuxièmement, un rapport juste et serein à la réalité. Et en troisième lieu, relativiser la notion du moi. Ça répond à trois fonctionnements essentiels de mon type de schizophrénie, à savoir une maladie de la pensée, une déconnexion de la réalité avec la création d'un monde imaginaire et une tendance à l'égocentrisme. Et tout a changé le jour où j'ai décidé de ne plus vivre la maladie mentale comme une fatalité, mais plutôt d'en faire une force de résilience qui servira à aider les autres. C'est vite dit, tout a changé. En fait, il y a quelque chose d'essentiel, c'est l'amour. C'est que si ça a changé, c'est parce que j'aime mon frère, que j'aime ma famille et que je voulais conserver ça. Je voulais que... J'étais en train de voir que je détruisais ma famille, mon fils. Et ça a été le point de départ, c'est ça, qui a changé. Et après, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix, qu'il fallait que... je voulais pas... J'étais dans le déni beaucoup trop longtemps. Je sais même pas si je me suis vraiment rendu compte, mais... C'est la thérapie qui m'a beaucoup aidé, en fait. C'est la thérapie. Je pensais que si je devenais sérieux, j'allais perdre mon cœur d'enfant, que j'allais perdre la joie de qui je suis et tout ça. Mais là, au contraire, je me rends compte que plus je complexifie ma pensée, plus je me guéris, plus je me défends, plus je me sens libre, plus j'embrasse la totalité de la vie. Et c'est plus du rêve, j'avais besoin d'être groundé. C'est ça qui me manquait, j'avais besoin d'être ancré à la réalité. Et voilà. Et donc accepter la schizophrénie, c'est pas juste de grandir dans l'adversité, parce que ce serait trop facile sinon. C'est beaucoup plus que ça. Parce que... Il y a une énergie que je dépense, que les autres n'ont pas besoin de dépenser. Malgré un traitement, je dois composer avec des pensées pathologiques et les identifier, les comprendre et ne pas rentrer dedans. Donc c'est aussi une forme une autre adversité, en fait, en plus. Et donc ça, c'est un truc qu'on pourra voir dans d'autres épisodes. Ciao, allez, bye, à la prochaine.
Des bruits de soi, épisode 1. Vivre en chrysalide.
Je remercie chaleureusement maman, mes frères, Nadia Mtahri, Maria Kenzilhlou, Soufia Hadi, Yasmine Mohid, Dr Hatoun Hibraoui Qadri, Houda Outerhout, Mehdi Kindi, Robin Weinhold. Et merci aux copains de la SNRT, Saïda Sibari et Hichem Zraq. Et merci à tous les copains qui m'ont soutenu.
Qui avait écouté ou un de vos proches traverser un moment particulièrement difficile, ne restez pas seul et parlez-en à vos proches et aux professionnels de la santé mentale.